Alors, si vous voulez vous joindre à moi, on va étudier aujourd'hui le chapitre 28 de la Genèse, les versets 1 à 22. Tout le chapitre, d'ailleurs. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. » Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisait à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix, à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, aujourd'hui, le message est tout simplement le fil conducteur, le titre que j'ai donné au message d'aujourd'hui, c'est « Le fil conducteur dans la vie du croyant ». Autrement dit, dans la vie de tout croyant dont nous sommes, il y a un fil conducteur, et ce fil conducteur-là, si on veut l'identifier par deux mots, la grâce directrice. Dieu dirige nos vies en déversant une multitude de grâces tout au long de notre vie, à tout moment, pour toutes sortes de raisons. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va regarder que la grâce directrice, comment elle se manifeste dans la vie des patriarches, on va voir que le Seigneur, dans le fond, la grâce directrice permet que le Seigneur est recherché. Quand vous regardez le texte d'Apollon, puis vous l'étudiez un petit peu, on peut faire des divisions du chapitre 28. On va voir que le Seigneur est recherché. C'est une grâce quand Dieu permet qu'à cause des circonstances, qu'est-ce qui arrive dans nos vies, qu'on se mette à rechercher Dieu d'une façon particulière. C'est une grâce qu'on reçoit du Seigneur. Ça, c'est les versets 1 à 9. On va étudier tantôt un petit peu plus, on va regarder les divisions. Le deuxième, c'est le Seigneur est révélé. Donc, le Seigneur est recherché, ça c'est une grâce. Le Seigneur est révélé, on a vu qu'à partir du moment où il a eu son songe, le Seigneur lui a parlé, il s'est révélé à lui de différentes façons, lui a dit différentes choses qui étaient importantes pour lui de savoir. Donc, le Seigneur se révèle. Nous aussi, dans nos vies, le Seigneur se révèle. Au début, si je recule de 40 ans, ou à peu près, là, dans ma vie chrétienne, ce que je savais sur le Seigneur, c'était un cheveu. Maintenant, je dirais que c'est peut-être une perruque. Mais par rapport à ce que je peux savoir de lui, même la perruque, c'est petit. Le Seigneur est tellement grand. Tellement grand, mais tout au long de notre vie, le Seigneur va se révéler à nous de plus en plus pour qu'on découvre sa beauté, sa grandeur, sa grâce, sa miséricorde et plein d'autres choses encore. Alors, les deux grâces directrices qu'on a de versets 1 à 9, le Seigneur est recherché. Le Seigneur permet des circonstances dans nos vies dans lesquelles on le recherche. Ça, c'est vraiment toute une grâce. Parce que plus on cherche Dieu, le Seigneur, il dit dans ses Écritures que si tu me cherches, tu me trouves. Mais il y a le « si ». Si tu me cherches, tu me trouves. Après ça, le dernier bout, les versets 16 à 22, le Seigneur est remercié. Donc, quand on regarde la grâce directrice, à l'intérieur de tout le passage, le Seigneur est recherché, versets 1 à 9, le Seigneur est révélé, versets 10 à 15, et le Seigneur est remercié, versets 16 à 22. On va voir que c'est définitivement dans le texte quand on se met à regarder un petit peu plus d'aplomb. On le sait par expérience, est-ce que le Seigneur nous abandonne à partir du moment qu'on a fait une grosse bêtise dans nos vies? Je ne sais pas si vous n'avez fait des grosses bêtises depuis le début de votre vie chrétienne, mais je peux vous dire bien humblement comme moi j'en ai fait. Des grosses bêtises. Et s'il fallait que le Seigneur nous abandonne dès qu'on fait une grosse bêtise, vous dire une chose, ça ferait longtemps qu'on ne serait plus dans l'Église du Seigneur. On fait toutes des grosses bêtises, mais le Seigneur, lui, il est fidèle et il va continuer à... Il va nous reprendre, il va nous corriger, mais il ne nous abandonne pas. Ça, c'est une leçon très importante à savoir. Donc, par expérience, on sait que le Seigneur ne nous abandonne pas, même après nos plus grosses bêtises. Il y avait des personnages, parce que on est dans une suite d'études. Alors, on sait que Jacob, Rebecca et Isaac avaient commis des gros péchés dans l'histoire. Quand on regarde l'histoire depuis le début, ils avaient commis des gros péchés. Et si le Seigneur aurait été sévère au point que... Tu fais une bêtise comme ça après que tu me connais, s'il aurait été sévère, là. Et là, le Seigneur est miséricordieux. Il va les corriger, mais ça va prendre du temps. On va voir Jacob, on l'appelait le supplanteur. Hein. Le supplanteur, ça, c'est un gars qui avait tendance à s'approprier des choses qu'il n'avait pas le droit de s'approprier. Et là, le supplanteur, le Seigneur permet qu'il s'en aille voir Laban. Et Laban, lui, c'est le maître supplanteur. Alors, ton péché, le Seigneur, il t'envoie... Il est resté là 20 ans. Hein. Elle pensait, oh, tu vas t'en aller un petit peu, ton frère va oublier la bêtise. Mais ça a pris 20 ans avant qu'il sorte de chez son frère Laban. Puis Laban, ça a été une personne qui savait exploiter, qui savait être un supplanteur. Alors, le supplanteur... Il s'est fait donner des leçons par le maître supplanteur. Alors, on voit quand on dit qu'après une grosse bêtise, le Seigneur, OK, est obligé de sortir de son pays parce que son frère voulait le tuer, tellement il était en colère après lui. Mais, d'un autre côté, le Seigneur permet qu'il s'en aille dans un pays où là, premièrement, il va se faire tromper.
quand il va vouloir marier sa première, on sait que la main, il en a passé une petite vite, il a donné sa plus vieille. Et alors, toute l'histoire, on la connaît, c'est très intéressant. Alors, Jacob, Rebecca, Isaac avaient commis des graves péchés. Dans la tromperie d'Isaac pour obtenir la bénédiction divine. Alors, il faut se replacer. On ne recommencera pas les leçons des semaines dernières. Alors, notre glorieux et grand Seigneur voit infailliblement à l'accomplissement de ses décrets, de ses promesses et de son alliance. Dieu avait dit que c'était le plus jeune Jacob qui serait béni, alors que ça aurait dû être le plus vieux Isaü. Mais le Seigneur avait décidé que c'était le plus jeune. Même s'ils ont tout fait pour essayer de tromper, Dieu a accompli. Alors Dieu travaille toujours de cette façon-là. Les décrets de Dieu, les décisions divines, ses promesses et son alliance finissent toujours par se réaliser, malgré que l'homme parfois cherche à se mettre en travers des choses divines. Mais quand on fait des bêtises, il ne nous abandonne pas. Cependant, il nous corrige. Si ça fait le moindre nombre d'années que vous êtes chrétien, si le Seigneur ne vous a jamais corrigé, laissez-moi douter un petit peu. Parce que le Seigneur, il dit qu'il corrige ceux qu'il aime, il châtie celui qu'il aime. Et de la même façon que nous, quand on a des enfants, puis qu'ils font des bêtises, des grosses bêtises, on ne les laisse pas faire parce qu'ils deviendraient des monstres si on les laissera faire. Alors Dieu est pareil avec nous, il nous connaît, il connaît notre faiblesse, notre tendance à faire des bêtises, et il nous corrige de différentes façons. Et une chance qu'il est comme ça, parce que... Alors le Seigneur corrige toujours nos comportements pécheurs, et il veille très fidèlement à nous instruire et à modeler notre caractère pour qu'on ressemble davantage à Jésus-Christ. C'est ça que les Écritures nous apprennent. Il nous prend, comme au début de notre vie chrétienne, et il nous fait vivre une multitude d'expériences, mais ces expériences-là ont un but. Le but, c'est de te faire ressembler davantage, de plus en plus, chaque jour à Jésus-Christ. Et si vous lisez vos quatre évangiles, vous allez vous apercevoir que pour ressembler à Jésus-Christ, vous avez du chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire. Infiniment le chemin à faire. On peut même utiliser ces mots-là. Alors, la discipline et le châtiment font partie de notre vie comme croyants. Alors, on va voir dans ce chapitre-là comment le Seigneur va éduquer son élu Jacob, et il va le faire par les trois moyens qu'on a vus tantôt. Il va permettre que, à cause des circonstances qu'il lui fait vivre, ça va mettre Jacob dans un état de recherche de Dieu. Et après qu'il a recherché Dieu, Dieu dit « Celui qui me cherche me trouve ». Et on voit le principe s'appliquer dans le chapitre 28. Il l'a cherché, il l'a trouvé. Dieu a permis qu'il y ait un rêve, il a vu l'échelle, il a vu toutes ces histoires-là, que les anges qui montaient, descendaient. On va voir un peu plus en détail tantôt ces choses-là. Et la troisième chose, c'est qu'après Dieu, si tu l'as cherché puis il s'est révélé à toi, quelle est la chose naturelle qu'on fait quand ces choses-là arrivent? Remercier. Alors, on voit exactement ces trois choses-là dans notre texte. Alors, on va regarder la recherche authentique du Seigneur par Jacob dans les versets 1 à 5. Alors, Isaac appela Jacob et le bénit. Il lui commanda et lui dit, « Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padamaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. » Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham. Puis Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padamaram vers Laban, fils de Bethuel l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. La recherche, on la voit dans le fait que son père lui dit quelque chose. Je veux que tu ailles là, puis je veux que tu maries une fille du pays. La recherche de Dieu, c'est qu'il comprend que c'est dans la volonté divine qu'il exécute ce que son père lui dit. Alors, dans la recherche du Seigneur, dans la voie divine, on voit Jacob, il manifeste des bonnes dispositions filiales. Quand on a des enfants, puis si vous avez un enfant qui est docile, puis qui a un bon caractère, puis chaque fois que vous lui demandez quelque chose, il dit toujours « oui, papa, oui, maman », on pense qu'on peut dire facilement « c'est vraiment un super de bon enfant, un bon enfant que j'ai ». On peut tout demander, malheureusement. Mais à quelque part, sa mère, dans le verset 20, dans le chapitre 27, elle lui avait donné un conseil, ça. On se souvient, ça, c'est la semaine dernière. Elle lui avait dit, dans le chapitre 27, les versets 43-46, « Maintenant, donc, mon fils, et elle parle à son fils Jacob, « Maintenant, donc, mon fils, obéis à ma voix. Lève-toi, enfuis-toi vers Laban, mon frère, à Charan, et tu demeureras avec lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit passée. » Elle s'imaginait, oh, couple de semaines, couple de mois au maximum, Ésaü va se calmer, là, je vais retourner te chercher, tu vas t'en revenir au pays. Ça, c'était son plan à elle. Verset 45, « Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il ait oublié ce que tu lui as fait. Alors je t'enverrai chercher de là. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? » Et Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, une femme comme celle-là, à quoi me sert la vie? » Elle, là, elle savait que Ésaü avait marié des femmes du pays de Canaan qui étaient des idolâtres. C'était des personnes qui brûlaient leurs enfants pour obtenir, des faveurs de Satan. Et apparemment, que d'après les recherches archéologiques qui étaient faites dans ce coin-là, ils ont découvert des champs complets, pleins d'ossements, des personnes qui, pour obtenir des faveurs de Satan, font brûler leurs premiers-nés ou leurs enfants sur des autels. C'était terrible que tu passes à ça. Et lui, Dieu avait toujours dit que si tu es une personne qui appartient au Seigneur, puis que tu maries des gens qui sont dans cette religion-là, c'est eux qui vont t'entraîner dans leurs affaires, et non pas l'inverse. Alors, elle dit, je suis dégoûtée. Puis elle dit, le plus jeune, Jacob, là, s'il est pour marier des filles comme Ésaü, là, je vais m'autant mourir. Alors, elle est très, très... Et donc, il obéit au souhait de sa mère. On voit la recherche de Dieu dans ce fait-là. Il obéit aussi au commandement de son père. Alors Isaac appela Jacob et le bénit, et il lui commanda. Et il lui dit, « Tu ne prendras point une fille parmi les filles de Canaan. » Quand ton père... Il ne dit pas, ben, je te donne un petit conseil. Quand ton père te commande, ceux qui ont été dans l'armée, ils savent comment ça marche. Hein? J'ai été dans l'armée, moi. Quand le commandant dit quelque chose, que ce soit un caporal, un sergent ou un officier, il dit telle affaire, t'es mieux d'écouter parce que tu vas avoir des problèmes quand tu es dans l'armée, quand tu ne t'écoutes pas. Alors, il y avait eu le commandement de son père de ne pas marier d'autres femmes qui étaient des cananéennes dans le pays. Alors, son père aussi lui dit d'où aller dans la maison de Bethuel. Autrement dit, ce qu'il lui dit, va dans le pays où tu vas marier une chrétienne, où tu vas marier une croyante. S'il y a des leçons pour nous aujourd'hui là-dedans, c'est qu'on se doit de se rappeler que comme chrétien, on ne peut pas marier n'importe qui. Il faut marier une chrétienne. Et si on fait à notre tête, puis qu'on marie la femme marie un non-chrétien ou l'inverse, il y a des fois que le Seigneur fait grâce et que ça tourne bien le couple. Mais en général, quand les gens n'écoutent pas le Seigneur qui dit de ne pas avoir, de se marier avec des inconvertis, tôt ou tard, les problèmes vont arriver, dites-vous. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Alors, la recherche du Seigneur, elle se fait dans le verset 3, dans la voie de la bénédiction. Il lui dit, fais ce que je te dis, et après ça, la bénédiction arrive, et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples. Et il lui rappelle dans le verset 4 qu'il y a une promesse qui avait été dit, qui avait été donnée à Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, on est rendu à Jacob. Là. Donc la promesse que Dieu a faite à Abraham, elle se transmet à Isaac, et Isaac il transmet la promesse divine à son fils Jacob. Alors, quand il lui dit, dans le verset 4, et qu'il parle de Dieu, il dit, « Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. » La bénédiction d'Abraham, c'était que par Abraham, Jésus-Christ viendrait sur la terre éventuellement. Le Messie n'était pas encore au monde dans ces années-là. C'était, eux, ils croyaient au Messie à venir, tandis que nous, on croit au Messie venu. C'est pas tout à fait la même chose, mais ils croyaient quand même au Messie. Il dit, « Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham. » Dans le verset 5, on voit qu'il y a une recherche de Dieu dans le sens de l'espoir. Puis Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram vers Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Je pense qu'ici, on voit que Isaac a repris conscience de l'importance du choix de l'épouse de son fils. Pourquoi il voulait absolument que ce soit une croyante? Parce qu'il était conscient qu'il était pour être dans la lignée messianique. Autrement dit, le Messie viendrait au monde de père en fils, comme ça, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Il était conscient, il a repris conscience de ça. Il l'avait perdu un peu, là, parce qu'il avait pensé que je peux donner la bénédiction à Ésaü au lieu de Jacob. Il l'avait perdu, mais il est en train de le retrouver. L'importance de son choix de l'épouse. Il n'oublie pas que Jacob et sa future épouse deviendront la courroie de transmission de la venue future du Messie. Quand on parle de la semence, tu sais, quand on recule dans Genèse 3,15, là, il parle de la semence. Là. La semence, c'est Christ, parce que ça dit dans Galates, et ça le dit exactement, la semence, c'est Christ. Alors, autrement dit, tu es en train de reprendre conscience que la lignée messianique, là, c'est important que le Jacob soit marié avec une croyante aussi. Alors, quand on regarde les circonstances du voyage de Jacob, il se trouve dans un état psychologique de détresse. Ça nous est-il déjà arrivé, ça, d'être dans un état psychologique de détresse? Je pense qu'il n'y en a pas un d'entre nous, d'après moi, si on n'est pas des enfants, on est assez d'années d'expérience chrétienne pour savoir qu'au cours de notre vie, on va traverser des périodes dures, comme on vit. La détresse, quand on est en un état de détresse, on ne file pas bien, mon Dieu. Alors, pourquoi je dis détresse, qui était dans un état de détresse? C'est toi qui inventes ça, là? Ben non, c'est marqué dans les Écritures. Genèse 35, verset 3, nous dit, lui-même, selon ses propres mots, il dit, lorsque Isaac, après 20 ans, il ne faut pas oublier qu'il passait d'aller là pour quelques semaines, il était là pendant 20 ans parce que ça prenait 7 ans pour payer la dot de sa première femme, un autre 7 ans pour la dot de sa deuxième femme, et après ça, du temps que ça y a pris. Alors, il dit, levons-nous. Alors, après 20 ans, il a voulu sortir et s'en aller, se retourner dans son pays. Il dit, « Levons-nous, montons à Bethel, et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse. » Là, il s'est passé 20 ans. Il est allé se marier avec une croyante. Au bout de 20 ans, il est revenu. Voici les mots qu'il utilise. « Levons-nous, montons à Bethel, et j'y ferai un autel. » Je ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse. » Autrement dit, il est en train de dire, quand je suis allé dans le pays, là, l'autre bout, là, je ne filais pas bien. Et il dit, qui a été avec moi pendant mon voyage. Alors, on peut se demander la question, partir de où il était et aller à sa parenté, combien de kilomètres qu'il y a? Parce que dans ce temps-là, il voyageait à pied. Donner une idée, 800 kilomètres. 800 kilomètres séparent Beersheba de Charan. Imaginez-vous faire un voyage de 800 kilomètres à pied. Ce serait quoi? Ce serait monter en Abitibi, à peu près. Disons que vous auriez un voyage à faire. Vous diriez, OK, il faut que tu montes à Rouen, là. Tu pars à pied, d'ici, à matin, là. Puis tu montes à Rouen à pied. Ben, c'est ça qui s'est produit. Alors, son voyage était dans le long, comme on peut dire, 800 kilomètres pour se rendre à cet endroit-là. Alors, Jacob met au moins 2 jours pour atteindre Luz. Luz, c'était un endroit qui était sur le chemin dans la direction de où il voulait aller. Luz, qui est devenu plus tard Bethel. Et pourquoi on appelle Bethel les écoles bibliques aujourd'hui? C'est à cause que Dieu s'est manifesté là. Alors, là, il arrive à Luz, puis Luz, c'est à 80 kilomètres de où il part de Beersheba. Alors, Dieu a eu pitié de lui, il ne s'est pas révélé à lui à la fin de son voyage. Il s'est révélé à lui au début de son voyage. 80 kilomètres, c'est quoi? C'est-tu Sherbrooke ou pas tout à fait, là? À pied, au bout de quand t'arrives, là, tu comptes un peu. Dans ces pays-là où il fait très chaud. Alors, Jacob, il est tout seul. Il n'est pas avec son épouse, il n'est pas avec des amis. Voyager à pied tout seul, à cette époque-là, ça devait te mettre dans un état, tu dois avoir la peur, toutes sortes de sentiments. Puis là, il vient de vivre aussi le fait que son frère veut le tuer. Alors là, il est en train de se sauver. Autrement dit, il est en détresse. Alors là, il arrive là, il est tout seul, il arrive à l'endroit où Abraham avait dressé sa tente, que ça nous dit dans les autres passages de Genèse, entre Luz et Haï. Et là, c'est là qu'Abraham avait érigé son premier autel. Genèse 12, versets 7 à 8. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je te donnerai ce pays et à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. On ne remarque pas ça parfois, là. L'endroit où Abraham a été béni et l'endroit où Jacob va être béni, c'est presque au même endroit. Où Dieu était apparu à Abraham et maintenant il va apparaître à Jacob. Et le verset 8, il passa de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il tendit ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Alors, bien entendu, à cette époque-là, quand tu voyageais, qu'est-ce que tu faisais si tu arrivais à un endroit? S'il y avait des gens charitables qui voulaient t'héberger chez eux pendant que tu voyageais, tu étais bien chanceux. Mais s'il n'y avait personne, tu couchais à la belle étoile. Alors, quand tu es dans un état de détresse, coucher à la belle étoile, puis on sait le caractère de Jacob, quel était son caractère, Jacob? Un gars d'intérieur, on a vu ça dans le chapitre précédent. C'est un gars qui aimait vivre chez eux tranquille, un pantouflard, autrement dit. Pour un pantouflard, tu as ramassé à faire un voyage de 800 km à pied, et c'est pas évident du tout, là. Et coucher à la belle étoile, avec comme oreiller une roche, ça doit te faire réfléchir un petit peu. Alors, il ne trouve personne et il est donc contraint de dormir à la belle étoile. Et bien entendu, tout ça est bien nouveau pour lui. Contrairement à Ésaü. Ésaü, lui, on le dit, c'est un chasseur. Il aimait le plein air. Il était habitué à ça. Lui, pour lui, il n'y aura pas eu de problème là, pour Ésaü. Mais ce n'est pas deux caractères. C'est le caractère de Jacob n'est pas celui d'Ésaü. Alors, Jacob, bien entendu, comment il doit se sentir dans tout ça? On se met dans sa peau. Là. Il se sent comment? Vulnérable, s'il arrive une bête, on va faire quoi dans la nuit si je dors? Craintif, t'as peur? Et hésitant, qu'est-ce que l'avenir me réserve? Tu sais, j'ai 80 km de fête, mais j'en ai 800 à faire. Tu as 1/10 de ton voyage à faire. C'est ta première nuit à la Belle Étoile, ou peut-être la deuxième, la troisième. Alors, Dieu vient souvent à nous dans sa grâce, pour nous rendre conscients de sa présence lorsque nous passons dans un creux de notre vie. Ça, c'est intéressant. Souvent, on va lire les Écritures, on ne voit pas les choses que Dieu veut nous enseigner là-dedans. Il veut nous enseigner que lorsqu'on est dans un état de détresse et qu'on le recherche, il se manifeste à nous. C'est ça que ça nous apprend. Qui n'a pas eu des creux dans sa vie? Levez la main ceux qui n'ont jamais eu. Il n'y a pas grand main qui se lève. On a tous eu des détresses, des moments de détresse dans nous. Et Dieu, c'est souvent dans le moment où tu es le plus dans la détresse et que tu commences à le rechercher, qu'il vient se manifester à toi. Alors, lorsqu'on passe dans des creux de la vie, Dieu se sert souvent de ces moments-là. Alors, le Dieu qui s'est révélé au grand-père, à Abraham, au père, Isaac et à Jacob, vient vers lui alors qu'il dort dans un endroit, dans un lieu inconfortable et dangereux. Moi, je pense que si on ne retient pas cette leçon-là en lisant ce texte-là, là, on manque la leçon que Dieu veut nous enseigner. Quand on est dans la détresse, Dieu se sert souvent de ces moments-là pour venir. Et souvent, vous remarquez qu'on recherche le Seigneur beaucoup plus lorsqu'on est dans un état de détresse que quand tout va bien. Quand tout va mal, là on est porté à se tourner vers « Ah, Seigneur, ça va pas bien ». Et c'est correct, ça, parce qu'on se tourne vers celui qui peut nous apporter une solution à nos problèmes. Et on a vu dans le verset 6 à 9, donc, autrement dit, Jacob prend la bonne décision, suit conseil de sa mère, suit conseil de son père, et il veut accomplir de marier une croyante. Alors, mais on voit qu'Ésaü, lui, n'a pas tout à fait agi de la même façon, verset 6 à 9. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob. Il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme en le bénissant, et qu'il lui avait commandé, il dit, « Tu ne prendras point une femme parmi les filles de Canaan. » Et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il s'était en allé à Padan Aram. Ésaü, voyant que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, s'en alla vers Ismaël. C'était qui Ismaël? Un autre fils d'Abraham, si vous vous souvenez. Et il avait été, Dieu avait dit, oui, je vais te bénir physiquement, je vais te bénir, tu vas voir, c'est devenu les Arabes, mais ce n'étaient pas des croyants. Alors, il voit que son père ne veut pas que le plus jeune Jacob marie des filles de Canaan, mais il marie encore une autre troisième femme, et la troisième femme est encore une non-croyante. Alors, il n'a rien compris. Là. Si Jacob a compris quelque chose, lui, il n'a rien compris. Parce que ça dit, « S'en alla vers Ismaël et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, c'est sa troisième. Déjà, il était dans la polygamie. Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nebajot. Alors, Ésaü, quant à lui, ne recherche pas le Seigneur, mais plutôt cherche à plaire à son père terrestre. Il dit, « Papa, il a dit... » que tu ne devrais pas marier une Cananéenne. Il n'a pas compris que son père voulait dire « marie pas une incroyante ». Il s'en va vers une fille d'Ismaël qui est encore une incroyante. Qu'est-ce qu'il avait compris? Rien du tout. Alors, il décide de ne plus se marier avec une Cananéenne, mais il s'en va vers une Ismaélite. Ismaël avait été rejeté par Dieu quant aux promesses spirituelles. Dieu avait dit, oui, ils vont être bénis, ça va être les nations. Alors, il ne consulte pas ses parents, bien entendu. Et sa situation va aller de pire en pire. Il est rendu à sa troisième épouse païenne. Donc, versets 10 à 15, on est rendu au passage où on raconte que le... C'est très intéressant ce petit passage-là de l'échelle, là. On se demande quelle sorte d'échelle, qu'est-ce que ça va être ça, les anges qui montent, qui descendent. On se pose toutes sortes de questions quand on lit ça pour la première fois. Alors, mais Jacob partit de Beersheba, ça allait à Charan. Il arriva en un lieu où il passait la nuit parce que le soleil était couché. Il prend donc une des pierres du s'en fit son chevet, se couchant en ce lieu-là. Ça doit être confortable, une belle grosse roche là, comme oreiller. Ça fait du bien. Alors, il eut un songe. Dieu contrôle les songes. Pourquoi il y a eu ce songe-là? C'est parce que Dieu permettait qu'il ait ce songe-là. Il dit, « Et voici, une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait aux cieux. » Encore une fois, « Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. » Et verset 13, « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. » Ton père et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident, à l'Orient, au Nord et au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. et en ta postérité. Et voici, je suis... Regardez les mots que le Seigneur est en train d'utiliser pour lui parler. Je suis avec toi. Si tu es seul, la nuit, tu as peur, puis le Seigneur t'apparaît dans un champ, puis il dit, inquiète-toi pas, je suis avec toi. As-tu besoin de t'inquiéter quand Dieu te dit personnellement, je suis avec toi? Et il dit, il va plus loin, et je te garderai partout où tu iras. Il est en train de dire, tu ne sais pas encore, mais tu t'en vas pour 20 ans. Mais lui, il fait une promesse. Je te garderai partout où tu iras. Il te reste 600 km à faire de rien. Je vais être avec toi, je vais te garder partout où tu vas être. Et il lui fait une autre promesse. Je te ramènerai vers ce pays, dans ton pays, en ce pays. Autrement dit, tu es en train de sortir du pays et il dit, c'est moi qui vais te ramener. Alors que sa mère, elle lui avait dit, « Ah, le temps de ton frère se déchoque, là, puis je vais aller le chercher, tu vas revenir. » Elle ne l'a jamais revu, son fils. Alors, il dit pas, il dit, « Je te ramènerai. » Et il dit encore plus que ça. « Car je ne t'abandonnerai point. » Quand tu es dans un état de détresse et que Dieu lui-même te dit, « Je t'abandonnerai pas. Je te lâcherai pas. Je suis avec toi. Je t'accompagne. Je te garde. » Il dit, et le dernier mot est beau, hein? « Je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. » Quand Dieu parle, ce qu'il dit arrive toujours. Et là, il lui fait des promesses, des très, très grandes promesses. Lui, il ne sait pas que ça va s'échelonner sur 20 ans, mais le Seigneur lui fait des promesses que si vraiment il a retenu son rêve, moi, je suis convaincu qu'il l'a retenu, son rêve, là, il y a dans le texte, si vous regardez le verset 10 à 15, il y a quatre fois le mot « et voici ». Ça, des fois, on ne fait pas attention à ces choses-là, mais pourtant, on devrait. Parce que Dieu dit « et voici », il utilise les mots « et voici », c'est comme une invitation à réfléchir à ce qui est en train de se passer, à ce qui est en train de lui dire, à ce qu'il est en train de lui enseigner. Alors, il y a trois caractéristiques de ce rêve qui sont toutes, qui focalisent l'attention. Chacune est introduite par l'expression « et voici ». Je vous le dis, on fait une erreur lorsqu'on lit la Bible et qu'on ne tient pas compte de ça. Juste lire les petits versets, je dis, ah, il a dit « voici », il a dit « voici », il a dit « voici », puis il a dit « voici ». C'est pourquoi? La tendance qu'on a d'étudier la parole sans la méditer. Pourquoi le Seigneur dit ça « et voici » ? C'est souvent en lisant un commentaire, des bons commentaires, qu'ils vont te faire prendre conscience que Dieu est en train de dire à la personne, et voici, il est en train de dire à ceux qui vont lire le texte, de faire attention à ce qui est en train de se dérouler. C'est important, il y a des leçons pour toi à apprendre là-dedans. Alors l'expression, et voici, annonce le contenu du rêve, et bien entendu, ça excite l'esprit d'Isaac. Alors, le regard de Jacob se fixe d'abord sur une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel. Et là, ça dit sur cette échelle. Là, imaginez-vous, t'es en pleine nuit, t'as un rêve, puis là, tu vois une échelle qui part de la terre, qui va jusqu'au ciel. Puis là, il voit dessus des anges qui montent et qui descendent par elle. Mais le point central du passage, c'est que ça dit... L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Au-dessus de quoi? L'échelle. Bien sûr, l'échelle représente qu'on ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. L'échelle, c'est Jésus-Christ, symboliquement. Alors, quand on dit l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, les anges descendaient. La Bible nous dit que les anges sont envoyés par Dieu pour rendre service à ses élus, nous. Au cours de notre vie, là, on savait le nombre de fois que l'Éternel a envoyé des anges, soit pour nous protéger, soit pour nous enseigner des choses. On ne les voit pas, mais ce n'est pas à cause qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. La même chose que le démon, les anges, les démons. Ce n'est pas à cause qu'on ne les voit pas, on en est entouré. On est dans une guerre spirituelle. Ils nous haïssent, ils nous veulent du mal. Ce n'est pas à cause qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là, puis qu'ils n'agissent pas non plus. La même chose pour les anges bons. Alors, l'idée des anges qui montent et qui descendent sur l'échelle, bien entendu, ça représente Dieu envoie vers ses élus pour s'occuper. Ça dit que les anges s'occupent du ministère envers les élus dans Hébreu. Alors, c'est ça que ça représente, l'échelle. Alors, par ce moyen de communication, qui on pourrait dire pittoresque et fort, Dieu révèle qu'il se soucie de ce qui se passe sur la terre et assure Jacob de son intérêt pour lui et de sa protection. Jacob n'est pas livré à lui-même pour ce qui est de la signification du rêve. Dieu lui parle. C'est d'ailleurs la caractéristique centrale et prééminente. Dieu se présente comme le Dieu de l'Alliance. Les promesses d'abord faites à Abraham et renouvelées ensuite à Isaac lui sont maintenant faites directement. Tout à l'heure, je vous disais le passage du Nouveau Testament, du livre de Hébreux, qui nous dit ça, que les anges sont au service de nous. Voyons, on va le lire, Hébreux 1, 14. Il parle des anges dans le contexte. Il dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » L'échelle. Dieu est au-dessus et envoie des anges qui se promènent, qui remontent, descendent. Le service des anges pour nous. C'est ça que le livre d'Hébreux nous apprend. Alors, bien entendu, cette nuit-là, Jacob ne fait pas un rêve ordinaire. Dieu est à l'origine de tous les rêves et de celui de Jacob ici en particulier. Et il utilise ce moyen-là pour lui parler. Alors, les Écritures dans le livre d'Hébreux, si vous l'avez déjà étudié, c'est un livre très intéressant. Hébreux 1:1, ça dit, « Dieu, ayant autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé aux pères par les prophètes. » Alors, bien entendu, dans les versets 10 et 11, on voit que Jacob est parti, s'est en allé à Charan. Et là, il est arrivé l'histoire de la révélation divine par l'échelle. Alors, bien entendu, il voulait plaire à son père, il a décidé d'obéir et de recevoir la bénédiction et d'avoir une épouse qui était une épouse croyante. Alors, il veut suivre les traces de son grand-père Abraham et faire la volonté divine. Alors, Jacob est dans le plus complet dénuement. Il n'a pas dû voyager avec un chariot. Là. Il n'a presque rien. Il est parti avec très peu de bagages. Vulnérable, craintif, en pleine nuit. Et là, il lui arrive cela. Bien sûr, ça a dû avoir pour effet de le mettre en contact avec Dieu, de prendre conscience que même s'il venait de faire une bêtise extraordinaire, Dieu va se servir de ce long voyage-là qui va durer 20 ans pour lui apprendre une multitude de leçons. S'il était trompeur, il était très habile à faire ça, il va en rencontrer un, il va trouver chaussure à son pied, on va dire. Alors, il est dans le dénuement, il est vulnérable, il est craintif, il est hésitant. Il est sans ressources, c'est la nuit. Il doit dormir sur le sol, à la belle étoile, avec comme oreiller une belle grosse roche. Et dans le verset 12, ça dit, « Il eut un songe, voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait aux yeux, voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. » Alors, Dieu se sert de moyen pour se révéler à nous. Bien entendu, dans notre cas, bien entendu, il y a les Écritures, ça c'est sûr qu'il se révèle à nous par les Écritures, mais il peut se révéler à nous aussi par d'autres moyens. Dans ce cas-là, ici, c'est un songe. Mais son songe est significatif théologiquement. C'est si on ne voit pas dans l'échelle le médiateur entre le ciel et la terre, que les anges descendent et montent dessus, qui sont à notre service. À quelque part, on voit juste une petite histoire, il est accouché, puis il voit une échelle, puis il ne comprend pas. Quelque part, il faut réfléchir, parce que tout dans les Écritures nous parle de Christ. Alors, quelque part, ça parle de Christ. Dieu se sert de moyens pour se révéler, et bien entendu, dans ce songe-là, est significatif, très significatif théologiquement. Job 33 nous dit que le Seigneur nous parle par nos rêves. Il dit, Job 33, versets 15 et 16, « En songe, par des visions nocturnes, quand le soleil tombe sur les humains pendant qu'ils dorment sur leur couche, alors il ouvre l'oreille de l'homme et il met le sceau sur ses réprimandes. Autrement dit, le Seigneur se sert parfois de nos rêves pour nous parler. C'est ça que ça dit. En songe, par des visions nocturnes, quand le soleil tombe sur les humains, pendant qu'ils dorment sur leur couche, tu dors. Et là, ça dit, alors, il ouvre l'oreille de l'homme. S'il trouve l'oreille, c'est parce qu'il veut dire quelque chose par ce moyen-là. Et il met le sceau sur ses réprimandes. Alors, il peut se servir des rêves pour te réprimander. Alors, Dieu enseigne Jacob par le moyen de l'échelle. Celle-ci, l'échelle, représente la providence de Dieu et l'utilisation des anges dans la vie de ceux qui doivent hériter du salut, comme on a vu tout à l'heure dans Hébreux. Ceux qui doivent hériter du salut, Dieu envoie des anges pour ministère, ça veut dire qu'ils sont là pour nous servir. Ils nous préparent, ils nous enseignent. Et ça dit qu'ils montaient et descendaient continuellement. Vraiment, l'idée, c'est que Dieu se sert de Christ, qui est le médiateur, et les anges sont là pour servir ceux qui croient. Alors, on va faire encore un petit bout. OK. Non, on va arrêter là. Je pense que ça sera trop long. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et on terminera. Ce ne sera pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ça va être notre ami Danny qui va nous prêcher. Alors, on continuera l'autre semaine après.